bienvenue à ceux qui nous ont rejoints au cours de ce culte. Soyez la bienvenue de la part du Seigneur et nous allons prendre le temps de prier avant de commencer notre méditation sur la parole de Dieu. Bien Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont présents ici et tu veux nous faire te connaître parce que c'est la chose la plus importante. La vie éternelle, c'est te connaître de mieux en mieux, c'est marcher dans tes voies. Et ce matin, nous sommes déjà penchés sur la parole, nous avons fait monter vers toi des cantiques, des actions de grâce, mais nous voulons encore entendre ta voix. Alors Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta voix. Chacun, tu connais les besoins de chacun, tu connais les soucis, les craintes, que chacun entende la voix du Seigneur pour lui-même. Nous te remettons aussi la place du dimanche à l'étage, que les enfants puissent être attentifs aussi à ta parole. Nous te demandons de calmer tout bruit extérieur, que nous puissions aussi ne pas être dérangés pendant ce temps de méditation. Que ton nom soit béni. Amen. La méditation est intitulée ce matin « La manifestation de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur ». Et nous allons nous pencher sur un moment de l'histoire d'Israël, une période confuse, la période où la nation d'Israël est séparée en deux, le royaume du nord, le royaume du sud, et donc ces deux royaumes se faisaient la guerre régulièrement. Et la Syrie était une civilisation au nord d'Israël et elle commençait à avoir des vues sur la Palestine. La vie du personnage sur lequel nous allons nous attarder ce matin nous apprend trois choses. La première chose, c'est nous verrons la caractéristique principale de l'homme naturel. Ensuite, nous verrons les erreurs de l'homme sincère quand il recherche Dieu. Et enfin, nous verrons la transformation radicale opérée dans la vie d'un homme touché par la grâce de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Rois, Deux Rois. Le livre de Rois, Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Et nous regardons de près l'histoire de Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 19. Naaman, chef du roi de Syrie, j'entendais pas, j'attends. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair de jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Voilà l'histoire touchante de cet homme atteint de la lèpre. Alors, regardons tout d'abord les caractéristiques de l'homme naturel représenté par Naaman. Le verset 1 nous présente un homme, Naaman, qui a réussi sur tous les tableaux. Il nous a dit qu'il est chef de l'armée de Syrie, l'équivalent aujourd'hui d'un général étoilé. Le roi le tenait en haute estime à cause des victoires qu'il avait remportées. C'est un homme de confiance, c'est un homme respecté de tout son entourage. Il faisait partie de la haute société. C'est un homme fort et vaillant, comme nous le signale la fin du verset 1. Quel homme remarquable! Beaucoup auraient aimé lui ressembler. Pourtant, quelque chose de grave n'allait pas. Il s'agissait d'une situation, d'un état qui ternissait ce beau tableau de général étoilé, d'homme de bonne réputation, d'homme de la haute société. Naaman était lépreux. La maladie et la mort coulaient dans ses veines et aucun moyen humain ne pouvait changer quoi que ce soit. Dans la parole de Dieu, la lèpre représente le péché sous ces deux aspects. Tout d'abord, le côté repoussant de la maladie. Les lépreux étaient tenus en dehors de la société. Ils devaient crier « lépreux », c'était terrible. Donc, le côté repoussant de la maladie qui illustre la souillure du péché. Et le deuxième aspect, c'est son caractère incurable qui symbolise la situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme à cause du péché. Voilà ce que représente la lèpre. La souillure, une situation désespérée. Des différences de tout ordre, social, professionnel, intellectuel, physique, séparent les hommes. Certains possèdent plus de sagesse, d'autres plus de force, d'autres plus de bien, d'autres plus d'honneur que d'autres, d'autres un physique parfait. Mais tous les hommes ont en commun une caractéristique qui enlève toute valeur à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils possèdent. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs par nature. » Cela veut dire que nous naissons pécheurs et de ce fait, parce que nous naissons pécheurs, nous commettons des péchés. Aucun moyen humain ne peut guérir le péché chez nous. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de rappel. Il n'y a rien qui peut nous délivrer de notre nature pécheresse. Nous le sommes dans la génétique. Notre nature pécheresse altère même les bonnes choses que nous faisons. Elle altère le bien en nous. C'est Ésaïe, chapitre 64, verset 5, qui dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Même notre justice, ce qui nous semble bien, est souillé à cause de notre nature. Voici la caractéristique de l'homme. Il est moralement pécheur et sous le coup de la condamnation divine. Ça, c'est la part de l'homme. Mais Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous lisons ça dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Il ne veut qu'aucun périsse, mais désire que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance, et la vie éternelle. Eh bien, Naaman, l'homme pécheur, il illustre l'homme pécheur par excellence. Il avait ses idées sur la vie religieuse de son époque. Et il se posait des questions. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce que tous ces dieux païens ont fait pour moi? Il était malade, incurable, ça détruisait tout le beau tableau qu'il avait. Qu'est-ce que ces dieux syriens ont fait pour lui? La lèpre le détruisait à petit feu. Il pouvait aussi se poser la question suivante, mais si le Dieu d'Israël est vraiment le Dieu puissant, pourquoi les rois d'Israël adorent-ils les dieux des autres nations? Parce que la nation d'Israël était sombrée dans l'idolâtrie. Elle adorait d'autres dieux que l'Éternel. Voilà toutes les questions, certaines questions qui pouvaient traverser l'esprit de Naaman, qui était terriblement touché par la lèpre. Mais nous avons dit, Dieu est riche en miséricorde, il est riche en bonté, et il travaille dans les cœurs. Il utilise même les choses difficiles de la vie pour nous apprendre à le chercher. Il utilise la maladie pour amener Naaman à le chercher. Et Naaman est désespéré. Il est à bout de force et son attitude commence à changer. Est-ce que vous avez fait cette démarche de chercher l'Éternel? On a chanté à la fin un très beau cantique. La dernière strophe nous engageait. Elle disait que en Jésus seul, voilà, j'ai tout. Et qu'il m'appelle, c'est-à-dire que je meure, ou qu'il revienne, eh bien, il est mon appui, il est ma seule richesse. Ça engageait chacun de nous. Est-ce que Jésus est vraiment notre Sauveur, notre Seigneur? Est-ce que nous avons mis en lui notre confiance pour chanter avec assurance ce cantique? C'est important. Eh bien, Dieu utilise les choses de la vie parce qu'il sait que nous sommes pécheurs, il veut que tous soient sauvés. Il utilise les choses de la vie, les difficultés, comme la félicité, pour nous pousser à le chercher, pour nous pousser à chercher les choses qui comptent pour l'éternité. Et nous avons là Naaman, quelqu'un de renommé, mais qui voyait sa vie partir en fumée, petit à petit, la lèpre le ronger. Tant qu'un homme n'est pas conscient de la condamnation divine qui pèse sur lui, de l'enfer qu'il attend s'il ne se repent pas, il continue sa route, métro, boulot, dodo, pensant que tout ira bien, tout finira bien. Prenons Ésaïe, chapitre 55. Gardez un droit dans Deux Rois et tournez les pages de votre Bible dans Ésaïe, chapitre 55. Et nous lisons les versets 6 à 8. Ésaïe 55, versets 6 à 8. Le verset 6 commence ainsi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, tu auras pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je poursuis un peu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les collines et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Nous nous penchons sur les versets 6 à 8, et nous avons là une triple exhortation. Tout d'abord, il nous est demandé de chercher l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'est pas les morts qui peuvent faire ça. C'est les vivants. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons à chercher l'Éternel. Nous avons à l'invoquer pendant que nous avons encore nos sens. N'attendons pas d'être âgés, d'avoir perdu la mémoire, de plus voir, de ne plus entendre. Nous demander pendant qu'il est prêt, pendant qu'il se trouve. Et donc, c'est dans cette vie que nous devons chercher l'Éternel. Hébreux chapitre 9, verset 27, met en garde. Il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Après la mort, c'est pas la belle vie, c'est pas le repos. Le jugement, nous tiendrons tous devant Dieu. Et justement, Hébreux chapitre 3, verset 7, exhortait, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà. La parole de Dieu est là pour nous parler et pour agir. Donc, ce passage d'Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 8, nous donne tout d'abord cette exhortation. Il y a aussi un avertissement. C'est les versets suivants, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà. Dieu nous demande de changer d'attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis du péché. La repentance, c'est abandonner son état d'esprit présent. C'est se détourner de sa mauvaise direction et se diriger vers Dieu. C'est avoir une autre considération pour la parole de Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que Dieu nous demande de faire ça. Et c'était écrit déjà à l'époque d'Ésaïe, mais c'est pour toutes les générations. Et la troisième chose que nous voyons dans ce passage, c'est la compassion de Dieu et son pardon complet. Parce qu'il nous est dit, au verset 7, que le méchant abandonne sa voie, oui, et l'homme d'iniquité s'est penché, oui, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà, Dieu a des surprises pour celui qui se confie en lui, pour quiconque vient à lui, pour quiconque retourne à l'Éternel. Il nous est dit, voilà, et des choses qui nous dépassent, parce que le verset 8 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et Naaman ne pensait certainement pas, on va voir, que une si belle chose lui arriverait. Il est parti avec plein de préjugés, plein d'idées préconçues, mais le Seigneur a fait son chemin parce qu'il a quand même fait la démarche d'aller, d'écouter la parole de cette jeune fille et de chercher l'Éternel. Eh bien justement, Dieu va maintenant utiliser cette fillette pour amener Naaman à le chercher. Notons au passage le contraste entre Naaman et la jeune fille israélite. Je vous invite à reprendre notre passage dans 2 Rois chapitre 5. Il nous est dit, or, verset 2, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur est auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On voit un contraste entre Naaman et cette jeune fille. Il nous a dit de Naaman que c'est un homme, un grand homme. Et il nous a dit de la fillette que c'est une petite fille. Il nous a dit de Naaman qu'il est un chef. Et la petite fille, elle est esclave, elle est une servante. Naaman est un homme considéré. Cette fillette était insignifiante. Et enfin, Naaman est désigné par son nom alors que le nom de cette fillette ne nous est même pas donné. Mais Naaman porte la marque du jugement de Dieu, la lèpre, tandis que cette fillette fait connaître le remède de Dieu. Naaman vit devant le roi de Syrie, cette jeune fille vit devant l'Éternel. Remarquez encore au verset 3 la foi de cet enfant, lorsqu'elle dit « Oh !» Verset 3, et elle dit à sa maîtresse « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Pas probablement, mais sûrement. Et cette jeune fille avait une confiance dans le Seigneur. Il n'y avait aucune guérison de lépreux à cette époque, et cette jeune fille a parfaitement confiance en la puissance de l'Éternel. On peut lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, gardez juste un doigt. Alors, si vous voulez. Luc chapitre 4, verset 27. Luc chapitre 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc il n'y avait pas de guérison de lépreux à cette époque. Et pourtant, voilà, seul Naaman a été guéri. Cette jeune fille, parce qu'elle avait foi dans la puissance de Dieu, pouvait voir à l'avance que Naaman aurait été guéri de sa lèpre. Voilà la foi, la confiance dans le Seigneur. Cette jeune fille était loin de ses parents, prisonnière en Syrie. Elle ne pensait même pas à elle-même. Elle pense à celui qui la retient captive et elle lui donne des paroles encourageantes. « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Combien son témoignage en acte était conforme à ses paroles. Romains chapitre 3, verset 23, nous concluons cette première partie. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà la caractéristique de l'homme naturel. Tout homme qui naît d'Adam, tout homme qui naît d'une femme. Dans les versets suivants, nous allons observer maintenant, en deuxième partie, certaines erreurs d'un pécheur sincère qui cherche Dieu. Alors je relis les versets 4 à 12. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. » Et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Voilà, nous voyons dans ces quelques versets, les erreurs d'un homme sincère qui cherche Dieu. Tout d'abord, au verset 5, Naaman n'a pas utilisé la bonne méthode. Conscient de son état critique et d'une possibilité de guérison au pays d'Israël, Naaman va tenter d'acheter sa guérison. Il va partir avec une lettre de recommandation, il va partir avec beaucoup d'or, de l'argent, des cadeaux, les 10 vêtements de rechange dont il est fait mention. Au lieu de venir à Christ comme des pécheurs coupables et les mains vides, l'homme naturel s'approche de Christ avec ses efforts, sa religion, sa moralité, ses bonnes œuvres, son baptême, sa religion. Rappelez-vous le jeune homme riche dans les évangiles qui avait observé tous les commandements de la loi, mais qui était resté attaché à ses richesses quand le Seigneur l'a dit, « Eh bien, laisse tout ça et suis-moi. » Son seul Dieu, c'était sa moralité, ses bonnes actions, même ses richesses. Dans, nous lisons ça dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. Et nous avons là des personnes qui comptent sur leurs bonnes œuvres. Et Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin du salut réside en Jésus seul. Nous avons lu dans Actes chapitre 12 ce matin qu'aucun autre nom n'a donné sous le ciel par lequel nous pourrions être sauvés. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que Dieu exige et tout ce dont le pécheur, l'homme naturel a besoin, est déjà accompli en Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oh non, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, dit aussi, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Voilà, il n'est pas besoin d'acheter le salut et de venir avec ses bonnes œuvres, son baptême d'enfant ou son baptême lambda, sa moralité, il faut venir tel qu'on est. Donc c'était la première erreur de Naaman. Il n'a pas utilisé la bonne méthode. Nous voyons une deuxième erreur, donc au verset, des versets 6 à 7. Naaman se rend au mauvais endroit. Au lieu de se rendre vers le prophète de Dieu, comme le lui avait dit la petite fille, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Non, il ne va pas vers le prophète, mais il se rend vers le roi. Il va au mauvais endroit. Ce prophète de Dieu, Élisée, représente Christ, qui est notre prophète, notre souverain sacrificateur, notre roi. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin, de sa conception à sa consommation. Les hommes, un prêtre, un pasteur, la Vierge Marie, ou même les choses, la loi, l'Église ne peuvent pas sauver. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On peut lire Matthieu, pour voir que c'est en Christ, comme nous l'avons dit déjà ce matin, hein, que c'est en Jésus seul qu'est le salut, comme nous l'avons chanté aussi. Donc on lit dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 25, je vous lis. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il faut aller au bon endroit. C'est venez à moi, venez à Christ, pas au pasteur, pas à la Vierge Marie, pas au prêtre, pas à la loi, pas à l'Église. Venez à Christ. Voilà. C'est lui qui peut nous décharger de nos fardeau de nos fatigues et nous donner du repos. Donc Naaman avait utilisé la mauvaise méthode, il était allé au mauvais endroit, une troisième erreur de l'homme pécheur qui cherche Dieu. Il va se rendre finalement chez le prophète, mais avec la mauvaise attitude, versets 8 à 9, on voit qu'il est irrité. Et pourquoi il est irrité? Le général Naaman vient en grande troupe devant le petit Élisée. Il voulait être traité comme un homme important. Remarquez, au verset 8 à 9, je relis. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Là, il est tombé de son cheval. Il attendait d'être traité comme un prince. Eh bien, Élisée ne se présente même pas à lui. Il envoie un messager lui parler. Et lui dit juste cette parole, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et c'est tout. » 7 fois dans le Jourdain. Il faut savoir que le Jourdain sort limpide, l'eau est claire lorsque le Jourdain sort du lac de Génézareth, mais il ne tarde pas à se troubler et il prend une couleur brune qui provient de la nature de son lit. Combien donc cela a pu sembler dégradant à ce grand général d'aller se plonger dans une rivière qui est de couleur brune. Et il attendait. Naaman fut irrité, verset 11, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom d'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira les lépreux. » Regardez ce qu'il dit, « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Voilà. Mais il y a mieux en Syrie, ce truc, cette rivière toute trouble, avec ses eaux sombres, ne valent pas les belles rivières que j'ai en Syrie. Et il me dit, va te laver, va te plonger 7 fois dans cette rivière, toute pourrie, comme diraient certains. Voilà. Les pêcheurs, ils veulent être traités comme des personnages importants. Ils veulent une reconnaissance et une attention particulière. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'orgueil. En réalité, nous sommes que des pêcheurs qui occupent une certaine place parmi d'autres pêcheurs. Nous ne sommes rien d'autre. Romains chapitre 3, versets 10 à 11, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. » Des pécheurs parmi des pécheurs. Même si socialement, cela a une place plus importante, nous sommes tous des pécheurs parmi des pécheurs. Et nous avons tous besoin d'une seule chose, de Jésus-Christ et de sa grâce. Enfin, une dernière erreur, la quatrième, versets 11 à 12, eh bien, Naaman avait des idées fausses sur la miséricorde. Et il dit, mais comment ce prophète ne sait pas à qui il a affaire ? Il a affaire au grand général. Naaman avait imaginé une cérémonie, on aurait déroulé le tapis rouge, on aurait mis de la musique, on l'aurait reçu en toute pompe, mais ce n'est pas ça. Une cérémonie digne de son rang. Et rien de tout ça. Pourquoi ? Il aurait tiré gloire de ça. Regardez-moi, le grand général guéri, voilà. Il aurait tiré gloire de tout ça. Naaman pensait qu'Élisée ferait quelque chose. Élisée lui fait dire simplement, lave-toi. Élisée fait en fait appel à sa foi. On peut lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Gardez toujours un doigt dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Il nous a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Naaman voulait la gloire, il voulait qu'on le traite comme un personnage important. Dieu voulait la foi. La foi dans la parole du prophète. La foi dans les choses simples. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Naaman avait une idée fausse sur la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre du salut. Il nous faut simplement la saisir par la foi. Le salut par la grâce seule à travers la justice et la croix du Seigneur Jésus. Voilà. C'est ce que nous avons d'ailleurs chanté dans plusieurs cantiques. Donc nous avons vu dans une première partie les caractéristiques de l'homme naturel, de l'homme pécheur. Nous avons vu aussi les erreurs que peuvent commettre un homme qui cherche Dieu. Voyons maintenant la transformation qui s'est réalisée dans la vie d'un homme pécheur qui a placé sa confiance dans le Seigneur, qui a par la foi saisi la parole de Dieu. Eh bien, Ça, nous voyons ça au verset 13 à 18. Je lirai seulement les versets 13 et 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu fait ?» Oui, pour être guéri. Hein. « Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair de jeune enfant, et il fut pur. Là, on voit la transformation de l'homme qui fait confiance à la parole de Dieu. À cette époque, Dieu parlait par les prophètes. Donc, la parole du prophète était la parole de Dieu. Naaman, mes amis, a bien failli retourner chez lui avec sa lèpre. Il aurait péri à cause de son orgueil. Il aurait péri s'il avait refusé d'abandonner sa voie, la repentance, pour suivre celle du Seigneur. Le verset 14. Mais dans cette affaire, le Seigneur a eu toute la gloire dans la guérison de Naaman. L'eau du Jourdain, c'était une eau ordinaire. Il n'y avait rien de magique. Ce n'est pas non plus le pouvoir d'Élisée qui a guéri Naaman. Les 7 immersions, se plonger 7 fois dans le Jourdain, étaient là pour s'assurer de l'obéissance totale de Naaman à la parole de Dieu. Quand on voit le site 7, c'est le chiffre 7 parle de perfection, de complétude, de choses achevées. Quand Dieu intervient dans une vie, le fait au-delà de ce qu'on espère. Il nous a dit au verset 14, « Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. » Il n'est resté aucune trace de la lèpre. Sa peau était douce comme celle d'un enfant, simplement parce qu'il était confié dans la parole de Dieu. On voit ensuite au verset 15 que la foi nourrit le croyant dans de nombreuses certitudes et la foi révèle Dieu à son âme. On voit que Naaman est prêt à donner beaucoup parce qu'il a beaucoup reçu. Dans verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. L'homme qui a été sauvé est reconnaissant. Parce qu'il a beaucoup reçu, il veut beaucoup donner. Alors Élisée refuse le présent, parce que la reconnaissance ne doit pas aller à Élisée. C'est pas Élisée qui a sauvé, c'est pas l'eau du Jourdain. La reconnaissance doit aller au Seigneur. Et non pas à l'instrument que le Seigneur a employé. Au verset 17, on lit... Alors donc, Élisée a refusé. Alors, verset 17, alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voilà. L'homme devant Dieu ne peut rien acheter. Il ne peut que recevoir grâce sur grâce. Et personne n'a besoin d'expliquer à Naaman qu'est-ce qu'il doit faire par la suite. Personne n'a besoin d'expliquer à Naaman que la grâce qu'il a reçue, la vie de Dieu qu'il a reçue implique la séparation des idoles. Alors il va demander de la terre, parce qu'à cette époque-là, on pensait qu'il fallait adorer le Dieu là où il était originaire. Donc il veut amener de la terre et bâtir un autel à la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il demande de la terre, parce qu'on sait que le Dieu pouvait être adoré sur le sol de la nation à laquelle il était lié. Vous voyez, personne n'a dit ça à Naaman, mais son cœur est transformé. Dieu agit avec puissance dans son cœur et il sait ce qu'il a à faire. Et vous voyez, rappelez-vous, il disait, mais l'abana, le parpar ne valent-ils pas mieux que les fleuves, tous les fleuves d'Israël? Eh bien voilà que son attitude a changé, maintenant il veut au contraire amener de la terre d'Israël pour bâtir un autel à Dieu. Il sait maintenant qu'il ne va rien trouver dans son pays pour sa foi naissante. Et remarquez encore, au verset 18, « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Là encore, personne n'a rien dit à Naaman, mais la foi qu'il a en Dieu sait que certaines choses ne vont pas. Ça lui pose un problème de conscience. Le fait qu'il va entrer avec le roi de Syrie et par la contrainte, il va être obligé de se prosterner devant Rimmon. Alors Élisée lui dit « Va en paix ». Pourquoi elle lui dit ça? Cela ne veut pas dire qu'Élisée est d'accord avec le fait de se prosterner dans la maison de l'idole. Mais Élisée sait que celui qui a travaillé dans le cœur de Naaman, la parole de Dieu va faire ses effets et que Dieu aussi saura conduire Naaman devant ses questions de conscience. Il saura lui dire quelle voie choisir. La vie de Naaman ce matin nous a appris quatre choses importantes. Tout d'abord, c'est lorsque nous sommes conscients de notre état de pécheur que nous cherchons à être purifiés. Si vous pensez être bien portant, pourquoi aller voir le médecin? Si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, pourquoi avoir besoin de salut? Il n'y a pas de condamnation, donc il n'y a pas de besoin de salut. Donc, la parole nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est quand on est conscient de notre état de péché que nous cherchons à être purifiés. La deuxième chose que nous avons apprise, c'est que Dieu nous fait entendre l'évangile pour que nous connaissions le chemin du salut. Ce n'est pas seulement entendre l'évangile et que nous repartions. Il veut que nous changions d'attitude et que nous croyions. Naaman, s'il n'avait pas cru, il serait reparti avec sa lèpre. Il aurait fini lépreux. Mais ayant confiance dans la parole de Dieu, il a été guéri. Dieu cherche chacun de nous et nous appelle à le suivre. La troisième chose que nous avons appris ce matin, c'est que lorsqu'on est complètement démuni, on est prêt alors à suivre le Seigneur. Il y a une loi qui court ici-bas, qui a couru ici-bas. Tout s'achète et se mérite. Ici, vous êtes d'accord? Tout se paye. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous avons lu dans Ésaïe. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Il nous faut renoncer à nos voies pour suivre les voies de l'Éternel. Et enfin, on a besoin d'obéir à la parole de Dieu pour être purifié, pour être sauvé. Nous avons lu que c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi. Un Naaman aurait pu écrire une thèse sur le Jourdain et il serait resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie s'il ne s'était pas plongé sept fois dans le Jourdain. Les choses, les circonstances étaient contraires. La vue disait, mais c'est pas dans cette eau-là que je vais être guéri. J'ai les eaux plus pures chez moi. Mais la parole de Dieu disait, va, lave-toi sept fois dans le Jourdain et tu seras pur. Eh bien, si nous avons besoin de placer notre confiance dans la parole de Dieu, de croire à ce qu'elle dit, ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons sauvés. Vous savez maintenant ce qu'est la véritable lèpre. C'est le péché. La lèpre représente le péché. C'est ce mal dont nous souffrons tous, de nature, par nature, dès notre naissance. Et ce mal conduit à la mort physique et à la mort éternelle si rien n'est fait dans cette vie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, ne cessez pas vos cœurs. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Dieu nous appelle à venir à Christ. On a lu dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur nous appelle de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Dieu nous appelle à venir à Christ. Nous devons y aller en comptant sur lui seul et sur sa grâce. Nous devons aller à l'instant même, ne pas attendre trop tard. Vous serez délivrés du pouvoir du péché et vous recevrez la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 que nous avons lu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Eh bien, je vous invite à chanter ce dernier cantique. Numéro 257, sur les ailes de la foi. Et que Dieu vous aide à méditer sa parole. On peut se tenir debout pour entonner ce cantique, numéro 200. Oh, quel bonheur pour le pécheur sans argent, sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon.